Du coup, je suis parti en 2016-2017 pour vivre 5 mois dans le désert de sel en Bolivie. Et c'était un peu une expérience de vie. C'était une expérience, on va dire, trois expériences en une fois. Première expérience avant de partir, trouver des sponsors et trouver de l'argent pour partir. Notre expérience, c'était vraiment sur place, qu'est-ce que la vie dans un désert? Et la troisième expérience, c'était de retour sur qu'est-ce que j'en fais de cette expérience et comment je la transforme en expérience artistique cette fois-ci.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Léo nous raconte la Bolivie. Avec lui, on a parlé de quinoa, de chiens et de sacré.
J'ai bourlingué à travers le monde. En fait, le but vraiment, c'était de m'immerger dans la vie quotidienne de populations reculées dans le désert. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que la vie dans le désert en fait? Je connaissais la vie dans la campagne, dans la ville, mais comment les gens vivent dans un désert? Et pour moi, c'était quelque chose qui me passionnait. Et tout a commencé avec une rencontre que j'ai faite en Erasmus à Copenhague. J'avais un professeur qui était passionné par tout ce qui était plantes tropicales, et il nous enseignait justement qu'est-ce qu'on faisait en agriculture pour ces plantes-là, qu'est-ce qu'on cultivait en Thaïlande, qu'est-ce qu'on cultivait au Brésil. Et donc je me rappelle cette fois-ci arriver en classe et je m'étais dit, il faut que tu lui demandes, Léo, vas-y, demande-lui, demande-lui. Il faut que tu lui demandes s'il connaît pas un sujet qui est en rapport avec la gastronomie et le paysage. Et donc je vais le voir, un peu tremblant, et je lui pose une question, voilà, est-ce que vous connaissez un sujet qui est en rapport avec la gastronomie et le paysage? Et là, je suis vraiment stupéfait parce qu'il me fait ben oui, je connais un sujet. Et en fait, il m'explique qu'il y a un fonds européen qui finance une campagne qui est en Bolivie. Le but, c'est de promouvoir la diversité alimentaire bolivienne, comme le quinoa, l'ail marante. Et l'intérêt, c'est de permettre aux habitants de pouvoir remanger du quinoa. Et l'association, en fait, se sert du restaurant Gusto, qui est situé à La Paz, pour promouvoir cette diversité et montrer majoritairement aux habitants et aux touristes que les quinoas et l'ail marante, ça peut être excellent. Donc il me parle de ce projet-là et je me dis, mais le quinoa, je connais vraiment rien. Qu'est-ce que c'est le quinoa? Et je m'interroge, je reviens chez moi, il est minuit, je me rappelle, je suis dans mon lit, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, mais je sais pas, j'ai quelque chose qui m'attire. Je suis vraiment surpris. Je sors mon ordinateur, je regarde sur Internet, quinoa, Bolivie. Et là, je me rends compte que le quinoa est cultivé dans le plus grand désert de sel du monde, qui est le désert de sel d'Uyuni, et qui fait 250 km de long, qui est en altitude, et qui a tous les extrêmes qu'on peut imaginer. La rareté de la pluie, il y a moins de 200 mm par an, le gel et le froid, la chaleur, l'immense quantité de sel, les rafales de vent, la luminosité qui détruit en fait tous les végétaux qui sont autour, parce que la blancheur du sel qui est sur 200 km de long fait que ça crée un immense miroir qui brûle tous les végétaux autour. Et pourtant, le quinoa résiste. Pour ressentir un peu ma joie quand j'apprends cette information, il faut imaginer que dans ces conditions, dans les marges de ce désert, les communautés aymaras produisent la plus importante production de quinoa au monde. En 2006, quand le quinoa n'était pas forcément connu de tout le monde, ça représentait 46% de la production mondiale autour d'un désert. Et quand j'apprends cette information, mais je me dis, mais c'est incroyable. Et de suite, j'ai envie d'y aller. Et je retrouve une énergie comme je n'avais jamais eu auparavant. Et je me suis dit, je vais aborder les partenaires financiers privés. Je commence à envoyer des messages aux cuisiniers les plus célèbres en France par mail. Ils me répondent, non, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de te revoir. On n'a pas le temps de te revoir. Et je reçois des messages et des messages, non, non, non. Et là, je change de stratégie. Je me suis dit, ok, ce n'est pas les emails qu'il faut faire. Je vais les rencontrer directement. Bon, je commence à guetter chaque rencontre pour des dédicaces, pour des conférences sur la nourriture, sur la gastronomie. Et finalement, je rencontre Thierry Marx 3 fois. Je rencontre Cyril Lignac. Je rencontre Pierre Hermé. Et finalement, j'obtiens mon partenaire privé, Michel Bras. Et Et je me rappelle, j'ai sauté de joie parce que Michel Bras, c'est pas n'importe qui, c'est un cuisinier 3 étoiles qui a été élu meilleur cuisinier du monde en 2016. Et sa qualité de cuisine est extraordinaire, il a inspiré de nombreux chefs. Et je peux pas savoir la joie que j'ai eue quand j'ai reçu cette réponse positive. Il m'a même invité chez lui à manger avec lui. Il m'a reçu, je lui ai montré ce que je faisais. Et c'était vraiment une rencontre extraordinaire qui a boosté ce projet, mais comme n'importe quel autre. C'est le jour J, je monte dans l'avion, la porte se ferme, l'aventure commence. Et je ressens vraiment de l'excitation parce que c'est un projet que j'ai mené, ça fait bien 3-4 mois que je suis dessus, à préparer, à chercher des partenaires. Et c'est enfin la joie, je me dis, waouh, c'est parti enfin, je vais décoller, je vais arriver en Bolivie, découvrir une nouvelle culture, je connais pas de mots d'espagnol, mais c'est pas grave. Ça va très bien le faire. J'arrive à La Paz, la capitale de Bolivie, et là, direct, mon corps me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je le ressens que je suis pas du tout à ma place, en fait. L'environnement, c'est pas mon environnement. C'est l'environnement de la haute altitude. Faut savoir que La Paz, c'est situé à 3700 mètres d'altitude. C'est l'aéroport le plus haut du monde. Et direct, ça, pour le corps, il le fait sentir, en fait, directement. Je sors de l'aéroport et direct, un voyageur m'aborde. Il me dit « Voilà, est-ce que toi aussi, tu voudrais prendre un taxi pour aller... un endroit, je lui fais ouais, moi aussi je prends un taxi, et il me fait voilà, bah, si tu veux on peut partager les frais, et je me suis dit bon, ben pourquoi pas, allez c'est parti, on monte dans le taxi. Finalement dans le taxi c'est un peu les premiers moments où je découvre la Bolivie. On s'approche de La Paz, donc la capitale, qui est une ville très spéciale parce qu'elle est dans une cuvette, c'est à dire qu'on arrive par le haut et on descend comme dans un escargot, on descend tout jusqu'au fond de la cuvette, et le restaurant où j'y allais était au fond de la cuvette. Là, du coup, je vais enchaîner à peu près 2 mois dans le restaurant Gustu pour apprendre la cuisine bolivienne, les traditions, la vie quotidienne, pour pouvoir un peu me former une opinion avant d'aller dans le désert, qui est quand même une expérience beaucoup plus intense que de rester en ville, même dans une ville qui est en Bolivie. À La Paz, je rencontre aussi l'association avec qui j'ai parlé pendant au moins 4 mois en France. On commence à planifier le voyage, elle me dit voilà, qu'elle a contacté des agriculteurs qui sont d'accord pour me recevoir, pendant, donc avec qui je vais rester au moins 2-3 mois. Et tout se met en place, j'ai mon bus de prévu. Sitôt descendu du bus, je vais à la place principale de Uyuni, qui est forme de square, qui est pavée. Et au milieu de ce pavage, il y a quasiment les seuls arbres qu'on peut rencontrer dans cette ville. Et le but de venir à Uyuni, en fait, c'est de rencontrer l'agricultrice avec qui je vais vivre, qui m'a donné rendez-vous dans ce lac, parce qu'il était beaucoup plus facile d'accès que d'autres lieux. Et donc, voilà, donc, le rendez-vous a lieu dans 3 jours. Je me balade dans la ville, je prends mon temps, je regarde les échoppes, ce qu'ils vendent. Je visite un petit train abandonné qui est juste à côté. Et ce jour-là, c'est le deuxième jour J, on va dire, et je dois rencontrer cette agricultrice. Et on va dire, le vrai commencement du projet commence maintenant. Je me dirige vers une statue qui est le lieu du rendez-vous. À l'heure donnée, je vois une vieille dame arriver au loin avec un poncho, les cheveux noirs luisants, un beau chapeau rond super propre malgré la poussière. Et elle s'assoit à côté de moi. Elle me fait « Oh, vous êtes Léo ?» Il faut savoir que je ne comprenais pas trop l'espagnol et encore moins l'aymara qui est le dialecte local. et donc, je comprenais quasiment allez, 25% de ce qu'elle disait. Et là, en fait... Plus elle commence à me parler, plus je me dis quelque chose est bizarre. Je comprenais quelques mots, mais ce que je comprenais me disait que ça sentait pas bon du tout en fait. Et plus elle me parle, et plus je comprends qu'en fait le projet s'annule, qu'elle a plus la capacité de m'accueillir et qu'elle doit partir en fait en voyage avec sa famille, et donc elle peut plus en fait m'héberger comme ce qui était prévu. Et il faut savoir, on va dire que c'était un travail quasiment de 5 mois. Et moi, je prends cette information comme une dévastation, enfin vraiment comme un... Je réalise pas en fait ce qui se passe. Tout s'écroule. Et vraiment, là, ça marque un temps spécial. Donc, on se salue. Moi, je suis sur le banc. Et elle me fait un grand sourire. Elle me serre la main. Et elle repart, en fait. Moi, je reste tout seul sur le banc. Et là, je me regarde. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais la seule chose que je pouvais faire. J'appelle... Giovanna, qui était la responsable du projet, et je lui raconte ce qui s'est passé. Et là, elle me fait « Oh mince, qu'est-ce qui se passe ? Non, ok. Écoute, je te rappelle d'autres personnes, et je vois si je peux pas organiser autre chose. Elle me rappelle 2 heures plus tard, elle me fait « C'est bon, j'ai trouvé quelque chose, tu pars ce soir. J'ai une autre communauté qui veut bien t'accueillir. Ce sera seulement pour 2-3 semaines, mais c'est toujours ça. » Elle me fait « Voilà, par contre, ce qui est bien, il faut absolument que tu achètes de la feuille de coca comme présent. C'est le plus beau présent, le plus beau cadeau, on va dire, que tu peux faire en Bolivie pour les communautés indigènes. » Ah bon, feuille de coca, où est-ce que je peux en trouver du coup? Je me dirige vers le marché local, je me balade un peu dans ces échoppes, et à un moment je tombe sur un marchand qui a juste des énormes sacs verts, transparents, et à l'intérieur c'est plein de feuilles de coca. Et il y a la queue, il y a plein de monde qui attend pour avoir ces feuilles de coca. Et là je sens l'odeur de la feuille de coca qui est quelque chose de très très fort. Je prends 3-4 sachets et c'est parti. Je suis prêt pour le bus, juste à côté la zone. Je me perds plusieurs fois, j'essaie de trouver le bus local. On me dit que c'est là, mais en fait non, c'est pas là. Je cours à droite à gauche, j'ai failli le louper, et en fait j'arrive au bus, je monte dedans. Et là, on va dire, la deuxième aventure commence. Il est quasiment minuit, et on traverse en fait le désert dans la nuit. J'ai encore rien vu du désert, tout autour de moi c'est noir. Je vois la courbure des montagnes, des volcans. Je devine quelques maisons par-ci, par-là, mais sinon rien d'autre. Le car avance avec une ambiance très festive, on va dire que j'étais assis à l'arrière du bus et dedans, mais c'était la fête. Ils avaient mis une chanson bolivienne qui est vraiment une chanson pour danser. Et tout le monde avec ça, je me rappelle, avec le bus qui balance à droite à gauche, une sorte de bus 4x4, ce qui s'engouffre dans... Donc il y a l'eau des fois, il traverse des petits guets, choses comme ça, donc c'est des grands bus. Et je me revois tout le monde valdinguer à droite à gauche, avec cette musique entraînante, avec que des locaux qui sont des communautés indigènes, et juste moi le seul blanc à l'intérieur du bus. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais si jamais la personne ne vient pas me chercher? Je serai seul dans le village, au milieu de nulle part, je ne sais même pas où je suis. Et il fait super froid. Il faut savoir que dans le désert, la nuit, ça peut aller jusqu'à moins 20 degrés. Et moi, je commençais un peu à m'ennuyer dans le bus. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je commence à sortir mes crayons couleurs, mon aquarelle, mon calepin de dessin, et je commence à dessiner le bus, en fait. Et tout d'un coup, je vois des regards qui se fixent sur mon aquarelle. Je n'avais jamais vu ça. Et tout le monde commence à se retourner vers moi, juste parce qu'ils voient une boîte d'aquarelle et un dessin. Et on commence à changer de place, à venir s'asseoir à côté de moi, et on commence à discuter. Et de suite, l'ambiance commence à devenir très, très zen, on commence à rigoler. Les personnes commencent à prendre mon aquarelle, je leur donne un bout de feuille, un bout de pinceau, une aquarelle, et c'est parti, ils commencent à dessiner. Et ils rigolent, ils dessinent des cœurs, ils dessinent des lamas, ils dessinent des maisons, plein de choses. Et on a bien vraiment rigolé dans le bus. J'arrive enfin au village, le bus s'arrête. Je descends et personne. Je devine des maisons en pierre, quelques autres maisons en terre et le reste, il n'y a rien. Il y a juste un petit arbre au milieu. Je trouve un petit banc, je m'assois sur le banc et j'attends. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part attendre? J'ai pas de logement, j'ai pas de tente, j'ai pas de sac de couchage, j'ai rien. Je vois arriver une longue torche et il y a quelqu'un qui vient me chercher. C'est Pedro, et donc je vais vivre avec lui pendant 3 semaines. Il m'accoste, et on part dans sa maison. Je rentre à l'intérieur, là il me fait signe de rentrer dans la cuisine. Là je découvre la famille, je dis bonjour à tout le monde, un peu gêné, parce que c'est assez impressionnant en fait, de rentrer dans la vie privée de ces personnes, très tard la nuit, et surtout ils ont très peu l'habitude de rencontrer les Blancs, ils prennent les Blancs plus pour des colonisateurs qu'autre chose. Et direct, il m'offre à manger. Je m'assois, soupe de quinoa. Un petit maïs qui est coupé en rondelles, qui flotte dans la soupe. Quelques herbes. Et je mange ça. Le grand silence dans la cuisine. J'essaie de parler, mais il me laisse seul en fait. Je pense par respect, il me laisse seul manger dans la cuisine. Ensuite, on m'accompagne à ma chambre. Et surprise en fait, j'ai une chambre particulière. Je pensais dormir avec eux sur le sol, et en fait non, j'ai un vrai lit avec une vraie pièce privée, une petite armoire, un petit chevalet, et c'est tout. Je rentre à l'intérieur du lit et je m'endors. Le lendemain matin, je me réveille, je vais dans la cuisine, je cherche quelqu'un, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'ils prennent le petit déjeuner ou pas? Est-ce qu'on va aller travailler? Et là, Pedro me voit et il m'amène dans la cuisine. Ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est café ou thé, accompagné d'un pain qui est fait par la communauté. Chaque semaine, les habitants tournent et ils font le pain individuellement. Donc ils ramassent la farine de quinoa et ils font le pain pour les autres. Les habitants viennent payer pour le pain et chaque semaine, c'est un roulement comme ça. Donc il y a toujours du pain frais qui est fait dans la petite communauté. Et on met un peu de beurre par-dessus, la confiture et on mange ça. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est très européen comme manière de manger. Et je ne suis pas très déboussolé. Très vite, on commence à discuter de ce que je veux faire, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là en fait. Et je veux vraiment leur montrer mon projet. J'avais préparé avant de partir, j'avais un petit calepin avec moi qui expliquait mon projet, quasiment sans texte, mais presque qu'en images. Avec une carte, avec ce que je cherchais, qui était traduit en aymara, qui était traduit en espagnol. Vraiment pour qu'ils comprennent pourquoi j'étais là et qu'ils me donnent une sorte de légitimité aussi. Pas qu'ils me prennent pour un simple touriste. Et le but aussi à moi, c'était vraiment pas seulement observer ce qu'ils faisaient, mais vraiment faire partie intégrante de leur vie quotidienne et donc faire toutes les tâches que eux pouvaient faire. Je voulais vraiment m'imprégner, savoir qu'est-ce que c'était de vivre dans le désert. La vie est très paisible. On commence par un petit déjeuner, après il faut entretenir le matériel, les pioches, les pelles, entretenir les voitures, entretenir les tracteurs s'ils en ont, amener les enfants à l'école. Et donc tout est vraiment paisible parce qu'ils sont autosuffisants alimentaires. Ils ont la nourriture, ils ont les lamas. Donc ils n'ont pas forcément besoin du monde extérieur. Je suis resté du coup 2-3 jours avec eux. Et à un moment, ils m'ont dit, si tu veux, t'as été voir déjà le désert de sel. Et je lui fais, ah non, je n'ai pas été voir encore. Vas-y, tu verras, c'est impressionnant. Et ça m'a touché venant la bouche de ces habitants qui vivent là depuis longtemps. Parce qu'on a toujours cette image du désert qui est plat, qui est un peu embêtant, qui a vraiment rien à voir, tu fais 100 mètres et voilà, c'est toujours la même chose. Et en fait, j'ai découvert un lieu qui est totalement époustouflant. Et pour vraiment comprendre, en fait, il faut imaginer une immense surface plane blanche qui est entourée de montagnes et de volcans. Et sur cette immense surface plane blanche, qui est donc faite de sel, il y a plein d'îles qui sont recouvertes de cactus géants. Ce sont des îles qui sont accessibles à pied, vu que c'est une surface de sel. Et tout au bord du désert, on trouve du sable et une végétation assez rase, quelques arbres, et on a vraiment l'impression, quand on marche dedans, que c'est un paysage lunaire, que c'est un paysage qu'on n'est plus sur la planète Terre, en fait, qu'on est sur Mars, sur la Lune, vraiment autre part. On a d'autant plus cette impression parce qu'on a tous les extrêmes qui sont réunis dans ce lieu. Ce qui se passe, c'est que le désert de sel réfléchit énormément la lumière du soleil, ce qui gomme les contours en fait du désert. C'est-à-dire que quand on marche, on a l'impression qu'on est à la fois dans le désert, qu'on voit des montagnes, mais qu'à la fois elles sont pas là, que c'est juste un mirage, parce qu'elles sont gommées par l'effet de l'altitude, l'effet de la lumière et l'effet du sel en fait, qui a tellement, c'est une base tellement importante, ce sel, qui se retrouve dans l'atmosphère. Du désert, qu'elle change même les propriétés de l'atmosphère. Et donc, ça fait varier la direction de la lumière, varier l'humidité, et ça crée un environnement mais impressionnant. Du coup, je rentre du village et je suis super content de ma découverte. J'ai découvert le désert de sel, le craquement, les différentes tonalités de couleurs qu'il peut y avoir entre la terre, le sable, le sel, l'eau. Et je rentre, voilà, je suis un grand sourire, sauf que j'avais oublié une chose, c'est que j'avais pas vu l'heure passer, et en fait, la communauté était en train de manger tout seul, et se demandait où j'étais passé. Et en me voyant, ils sont soulagés, parce qu'ils pensaient qu'il m'était arrivé quelque chose. Et là, je me dis, oui, en fait, faudrait peut-être que je fasse attention, je suis pas tout seul, et surtout que j'étais venu un petit peu avec mes sabots d'aventurier, européen, tranquille. Et à partir de ce moment-là, je me dis non, il faut faire attention, t'es pas chez toi, prends la mesure du temps, prends leur mesure du temps. Le lendemain, Pedro m'annonce une chose qui me fait plaisir, c'est qu'on va semer du quinoa. Et ça, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Il faut savoir que dans la culture aymara, les rêves ont valeur de présage, c'est-à-dire qu'ils attendent les rêves pour pouvoir avoir des actions agricoles. Et tant qu'ils n'ont pas ces rêves, ils vont pas. Et Pedro attendait en fait le signe d'un bébé ou d'une jeune fille qui est le signe de semer du quinoa. Ce jour-là, en fait, il se réveille, il dit, j'ai rêvé de ça, donc on va semer du quinoa aujourd'hui. On sort du village, on met les sachets de graines dans le pick-up, des piochons, la nourriture pour le midi, et c'est parti, on va sonder le terrain. Dans le désert, on n'est jamais sûr en fait de ce qui va se passer, et vu le réchauffement climatique, la nappe phréatique qui est sous le désert, qui permet la culture du quinoa, rétrécit au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut creuser de plus en plus profond pour atteindre cette nappe phréatique qui permet la survie du quinoa. Et donc chaque année, en fait, ils ont l'habitude d'aller sonder leur terrain, savoir où est le sable sec et où est le sable mouillé. Donc on va sonder ça. Donc on est tous heureux avec leurs pieds et les pioches. Ils sont un peu inquiets. Moi, je suis tout content parce que je sais pas trop ce qu'on fait là. En fait, je suis dans le désert. On est seul au milieu de nulle part. Il faut s'imaginer quand il y a des immenses montagnes qui nous entourent. On est trois petits points avec une petite voiture au milieu de l'immensité. À 1 kilomètre, il y a le désert de sel. Et il y a 1 kilomètre de sable. Et nous, on est au milieu. Il n'y a personne d'autre. Et donc Pedro commence à piocher. Et là, je vois qu'il commence à être inquiet. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Parce qu'en fait, c'est qu'il a fallu qu'il creuse jusqu'à 1 mètre de profondeur pour trouver le sable mouillé. Et donc, ça veut dire qu'il doit enterrer ces graines de quinoa, une graine de quinoa par une graine de quinoa, à chaque fois à 1 mètre de profondeur. Et ça, c'est une nouvelle parce que l'année dernière, c'était à 30 cm du sol. Et là, c'est passé à 1 mètre. Et ça veut dire aussi que c'est pas possible de passer le tracteur. Parce que le tracteur peut enfouir une graine jusqu'à 20 cm de profondeur. Au-delà, c'est forcément la main. Et donc, ça veut dire qu'il doit embaucher ses amis pour pouvoir cultiver son champ. On rentre à la maison et le lendemain, il y a toute une équipe qui vient avec nous. On creuse le premier trou. Moi, j'étais vraiment venu pour ça. Je voulais absolument participer à creuser les trous, savoir quelle était l'expérience physique de creuser des trous pour pouvoir manger finalement à sa faim. Et j'avais aussi une impression, je me suis dit, mais si jamais je creuse mal le trou et que la graine de quinoa se retrouve enfouie sous le sable sec, ça veut dire que l'année prochaine, tout ce que j'ai fait moi n'aura pas germé. Et donc j'avais aussi une appréhension, je me suis dit, je suis un peu aussi sur leur survie finalement, parce que c'est des gestes très méticuleux qu'il faut faire. Et donc c'est parti, on s'attelle à ça. Je me rends compte qu'au bout de 2 coups de pelle, je suis épuisé. Il faut se rappeler qu'on est à 3600 mètres d'altitude, qui est quasiment au niveau du Mont Blanc. Et chaque geste, là, c'est une épreuve parce qu'on se retrouve directement essoufflé. Finalement, j'avais 2 casquettes dans ce projet. J'avais la casquette du travailleur, qui faisait partie intégrante de la communauté. Et j'avais la casquette du reporter qui devait prendre des photos pour montrer voilà, comment les gens vivaient, comment ils s'organisaient. Et c'était très dur comme casquette parce que j'étais en train de creuser un trou de quinoa et d'un seul coup, j'observais la lumière autour de moi. Je voyais que c'était parfait et qu'il fallait que j'aille grimper sur cette montagne pour prendre une photo de ce paysage-là avec eux en train de travailler au milieu du champ pour vraiment montrer l'immensité du désert de sel. Et donc, j'abandonnais tout, je leur disais, je reviens, je courais, je prenais la photo et je revenais sur le champ, je recommençais à cultiver. Et au fur et à mesure que je restais avec eux, j'apprenais quelque chose qui était très intéressant. Ce que j'avais complètement oublié, en fait, c'était qu'en Amérique du Sud, il y a le culte de la Pachamama qui est très très forte encore. Et encore plus forte dans ces communautés indigènes qui sont dans un désert. Il faut savoir que la Pachamama, c'est la déesse de la terre. Donc c'est la déesse à la fois du ciel, de la terre où on est, et du souterrain. Ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que la vie quotidienne des populations dans ce désert-là est gouvernée par la Pachamama. C'est-à-dire que c'est les rêves que les communautés font qui va décider de leur action le lendemain. Et ces rêves-là sont directement décidés par la Pachamama. La symbolique de ces rêves, c'est la Pachamama. Dès que j'ai compris ça, j'avais l'impression d'être rentré dans une nouvelle métamorphose, en fait, dans une nouvelle culture. Je ne voyais plus seulement ce que les personnes faisaient, mais j'essayais de comprendre ce que les personnes pensaient. Et un jour, c'est vraiment le jour de grâce qui pour moi était vraiment étonnant parce que je ne pensais pas être invité à un événement de cette ampleur-là. Les communautés m'invitent à la cérémonie de la Pachamama qui a lieu dans le désert de sel, qui est un événement privé. seulement réservé à la communauté et que normalement il n'y a aucun touriste qui peut y accéder. Et le fait qu'il m'invite à participer à cet événement, pour moi, c'est waouh! Et j'étais vraiment, vraiment touché. Donc on part dans le désert, on est à côté des champs où on est déjà venu plusieurs fois cultiver. On s'installe et eux partent sans rien me dire. Ils partent cueillir du bois. Ils prennent des petits branchages qu'on trouve dans la toundra et ils ramènent tout ça juste à côté de la voiture en tas. Ils mettent tous les outils qu'ils ont alignés sur un plan horizontal, juste devant le feu, et ils commencent à allumer les branchages. Ils s'agenouillent sur le sol, juste à côté du feu, ils regardent le feu brûler, et ils sortent un papier journal de leur poche, ils positionnent des feuilles de coca sur le papier journal, et ils mettent le papier journal sur le feu. Tout brûle, et il y a un silence d'enfer. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils débouchent une bouteille d'alcool qu'ils versent sur le feu, qui prend des flammes immenses, ils balancent la bouteille sur le feu, ils débouchent une bouteille de bière, et la bouteille sous pression part en jet qui fait plus d'un mètre de long, et Pedro part autour du feu, en cercle, et balance toute la bière autour du feu. Ils se rassoivent, s'agenouillent, ils prennent dans la main le sable qu'ils ont à côté d'eux, le serrent très fort, et le versent sur le feu. Ils récitent des prières, ils se relèvent, s'embrassent, et c'est fini. Et moi, j'étais vraiment spectateur de ce que je voyais là, mais je sentais qu'ils n'étaient plus dans ce monde, en fait, qu'ils étaient vraiment ailleurs. Ils avaient plus de... Leur esprit n'était plus là. Dans leurs yeux, je voyais qu'ils voyaient que le feu et la Pachama. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont dit plus tard que le feu sert en fait à éveiller la Pachama. La fumée permet de réveiller cette déesse et d'être attentive en fait à son cadeau. Et le but, c'est d'avoir une récolte prospère pour l'année qui suit. Finalement, le séjour est fini. Pedro doit partir en vacances. Et je reprends mon petit bus. Je suis content de cette expérience. J'ai vu plein de choses intéressantes. Je reprends un bus qui va à La Paz. La Paz, je prends l'avion qui revient à Paris. Paris, je reviens chez mes parents. Et je me dis, waouh, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire dans le désert. Et j'ai l'impression d'avoir vécu en fait un rêve. Quelque chose qui ne s'est pas passé, quelque chose qui vient d'un autre monde. Et je me décide finalement, je me dis, ah, c'est super intéressant, mais en fait, j'ai pas vu le quinoa fleuri. J'ai pas vu ce que ça fait d'avoir des champs fleuris. Et il faut savoir que le quinoa, en fait, fleuri, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est un rouge flamboyant. Ça fait à peu près 1,50 m de hauteur, cette plante. Et dès que ça fleurit, ça embrase tout un paysage. Et je me dis, il faut absolument que j'y retourne parce que ce quinoa est tout autour du désert. Il y en a des oranges, des rouges, des jaunes. Et ça crée un paysage mais extraordinaire avec la blancheur du désert. Il faut que j'y retourne. Et donc finalement, l'objectif est toujours le même. C'était plus découvrir la magie du quinoa et le monde sacré et redécouvrir une autre culture sous l'angle du sacré, vraiment. Parce que le sacré, je l'ai découvert quasiment à la fin de mon voyage, en fait. Je n'avais pas du tout vu. J'avais un peu les yeux d'un touriste qui venait en balade. Et à la fin, j'ai pris une sorte de grande claque. Je me suis dit, waouh, en fait, t'es passé à côté de plein de choses. T'as rien vu, en fait. Et j'y retourne. Sauf que cette fois-ci, j'ai un lieu très particulier où je veux absolument aller. C'est à Tawa. Tawa, c'est un petit village indigène qui borde le désert de sel et qui a quelque chose de très spécial qui est à côté du volcan Tunupa, qui est le seul volcan femelle de tout l'altiplano. Le volcan femelle, en fait, dans la mythologie Aymara, c'est le volcan qui a permis la genèse de tout le désert. Il y a une grande légende qui est assez longue à raconter, mais en gros, la Tunupa, comme on l'appelait, c'était le volcan femelle de la zone, et tous les volcans mâles autour voulaient se l'approprier. C'était une sorte de compétition. Et un jour, elle a eu un bébé, sauf qu'elle ne savait pas de qui elle était le père. Donc tout le monde, tous les volcans autour essaient de se l'approprier, et une sorte de combat entre ces différents volcans. Si bien que les dieux ont voulu punir ce volcan et son fils pour la tension qu'elle avait créée dans toute la zone. Ils lui ont retiré son bébé volcan et ont décidé de les pétrifier en volcan. Et donc, je me revois là en vadrouille. Je prends le même bus de nuit, j'arrive la nuit. J'habite une sorte de terrasse avec une chambre privée. Et le lendemain, je me réveille. J'ai la vue sur le désert de sel, immense, un grand soleil, et pourtant je sens une grande déprime. Je suis déprimé. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Alors que tu pourrais avec tes amis en France faire autre chose et tu te retrouves dans un désert paumé, qu'est-ce que tu fais là ? Je me reprends, je me dis voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Je vais aller randonner. Je trouve une petite vallée. Sur cette vallée, je vois plein de plantes qui s'accumulent. Je me dis finalement, c'est pas si désertique que ça. Et là, je fais la rencontre magistrale qui va un peu me sauver mon séjour. Je fais la rencontre d'un chien qui va devenir mon meilleur compagnon, que j'ai prénommé Désert avec beaucoup de perspicacité. Et il va m'accompagner pendant tout mon séjour. Il va vraiment être, même les habitants me disaient, mais est-ce que c'est ton chien ou est-ce que c'est pas ton chien ? Parce que j'ai l'impression, il m'obéissait. Dès que j'allais rentrer dans un magasin, je lui disais, Désert, reste à côté du magasin. Il parlait espagnol normalement, et pourtant il m'écoutait. Il restait juste à côté, l'oreille droite. Je rentrais dans le magasin, je ressortais, il me suivait. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis là. J'ai trouvé une famille d'agriculteurs qui veut bien m'accueillir. Donc je pars avec eux dans le champ. Ils me montrent différents villages agricoles juste à côté. On part ensemble. Et donc je décide ce jour-là d'aller sur le volcan tout ou pas. Je suis plus que motivé. Je prends une autre bouteille d'eau, je refais mes stocks de nourriture. C'est parti, je grimpe. Je demande à quelques personnes si je dois faire une offrande particulière avant de monter sur le volcan, parce qu'il est sacré. Et tout le monde me dit non, pas de problème. Okay. Le chemin est enlacé, très facile au début. On grimpe, la végétation est assez rase. J'arrive progressivement, quasiment au niveau du volcan. Je suis à 5000 mètres d'altitude, et là je vois une oasis. Il y a 5000 mètres d'altitude, une oasis végétale. C'était une zone couverte de végétation un peu tropicale. Je me dis, waouh, c'est impressionnant. Et il n'y avait que cet endroit-là où il y avait cette végétation. Je continue. Et plus je monte en altitude, plus la longueur du désert de sel devient en fait une hauteur. Plus ça prend de l'épaisseur et ça prend de l'épaisseur. Et j'ai l'impression d'avoir une sorte de montagne blanche juste à côté de moi. Tellement que le désert est large. Et là, j'arrive au pied du volcan. Je suis à quelle altitude là ? 5300. Et en fait, je me suis dit dans ma tête, mais c'est fou, Léo, tu pars à 5300 mètres d'altitude sans préparation physique. Je suis quasiment au pied du volcan. Je suis à la dernière étape de mon ascension. Et je sens que mes forces me lâchent. Je sens que je suis à la limite de mon corps. Et je me dis, ouais, je ne veux pas abandonner maintenant. Quand même, j'ai fait 8 heures de marche. Il faut que j'y accède. Il faut que j'y arrive. Donc c'est parti. Là, le paysage complètement change. C'est un paysage de sable rouge et de crevasses. Il n'y a que ça. Quelques végétations, mais plus de roches quasiment. Juste du sable rouge et de la végétation. J'arrive à la dernière étape de mon ascension, qui est un mur de sable qui fait quasiment 5 mètres de hauteur. Et je sens que ce moment-là va être très dur et j'ai plus la force en fait. Je sens que mon corps il a la ramasse, qu'il ne peut plus suivre. J'ai plus beaucoup d'eau, j'ai plus rien. Mais je suis quasiment arrivé au but. Qu'est-ce que je fais ? Et là, j'avais besoin en fait d'une force extérieure pour venir m'aider. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais une offrande à ce volcan et je verse une goutte d'eau sur le sol. La chose la plus précieuse qui a été sur moi, c'était la goutte d'eau. Donc, j'en verse un peu sur le sol. Et le geste, rien que le geste de faire ça, ça me donne une impulsion, une énergie, mais incroyable, qui me permet de monter. Là, j'ai du mal parce que dès que je mets un pas, mon pas recule sous le sable et la densité... la pente, mais j'avance, je mets plat ventre, j'avance, j'essaie d'accrocher quelque chose, une pierre pour me hisser au sommet, et là enfin je suis au sommet du volcan, et là c'est quasiment le coucher du soleil, je regarde à 360 degrés la vue, là on imagine une immensité blanche tout autour, avec ponctuée d'îles recouvertes de cactus, et sous l'effet du coucher du soleil, avec le coucher du soleil, les teintes du désert changent complètement. Elles commencent à devenir violettes, puis bleues, puis bleu pâle, puis blanches. Et je me dis qu'en fait, le désert de sel qui était un ancien lac redevient un lac au coucher du soleil. Et donc je décide de descendre, et en descendant, je commence à courir, tout en regardant derrière moi, parce que le coucher du soleil faisait renaître un nouveau paysage derrière moi, que je n'avais pas vu. J'arrive au village... Je suis fébrile et mon corps tremble. Je m'assois à la seule boutique qui est ouverte la nuit. Et depuis 3 semaines que je suis dans ce village, j'avais qu'une envie, c'était de manger des œufs. Parce que j'avais que ça comme nourriture. Sauf que je ne pouvais pas les faire cuire. Et là, je supplie le commerçant de me faire cuire un œuf dans sa cuisine, parce que j'en avais vraiment besoin. Et là, je commence à lui raconter mon périple, ce que j'ai fait. Et le commerçant me dit, ok, assis-toi, t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. Donc je lui raconte tout. Et il me fait, oh, je suis pas surpris en fait que tu arrives dans cet état-là. Parce que finalement, l'énergie que tu as donnée à ce volcan-là, c'était ton offrande. Et donc quand tu vas à pied au sommet, t'as pas besoin d'offrir une offrande parce que ton énergie est ton offrande. Et finalement, c'était quasiment la fin de l'expédition. Je commence à dire au revoir en fait à mon chien tout bien-aimé qui m'a suivi pendant tout mon périple. Il est assis à côté de moi, j'attends le bus, il est à mes pieds et je sens qu'il sent le départ arriver. Il commence à pleurer, le bus arrive, je rentre à l'intérieur, il reste à tourner autour du bus et je sens que je verse ma petite larme parce que je voulais absolument l'amener avec moi, ce petit chien. Et voilà, et le bus part. Je reviens à La Passe en bus, je reviens à Paris et le cycle se termine.
Merci beaucoup pour ce récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier?
Ce qui est intéressant en fait, c'était la première fois où j'appréhendais un lieu, non pas avec mon regard, mais avec le regard d'un autre, avec le regard des populations qui vivaient là-bas. Et ça a complètement changé en fait ma vision parce que j'ai appris les légendes, j'ai appris les mythes et les coutumes. Et ça a transformé mon regard sur ce que j'avais, par exemple, du volcan, ou ce que j'avais du désert.
Au final, t'en as pas parlé, mais est-ce que tu as vu les quinoa en fleurs?
J'ai vu le quinoa en fleurs, et c'est tout simplement splendide, en fait, quand on a la blancheur éclatante du désert qui se retrouve juste à côté avec les quinoa en fleurs, ça fait comme une sorte de marche qui se dessine, comme une peinture vivante. Dès qu'on monte sur un sommet, oh, c'est vraiment des couleurs flamboyantes, à la fois pour la blancheur et à la fois pour tout ce qui est la palette colorée du quinoa.
Et au final, est-ce que tu as pu avoir un retour de la communauté dans laquelle tu avais vécu quelques semaines? Est-ce que la récolte a été bonne?
Alors j'ai pas eu de retour, mais j'ai envoyé des cartes postales, notamment de toutes les photos que j'ai prises. C'était important pour moi de faire ce retour et de montrer finalement que tout le temps qu'il m'avait accordé, finalement, il l'avait reçu par la photo.
De manière générale, pour se parler, pour ouvrir un peu sur ta manière de voyager à toi, est-ce que tu as un rituel pré-voyage? Quelque chose que tu fais toujours dans le même ordre avant de partir, j'en sais rien.
Moi, j'aime bien ne pas trop prévoir avant de partir parce que ça me stresse. J'aime bien prévoir l'imprévu. Et sinon, enfin, dire ce que j'ai commencé à faire, c'est avant de partir, je commence une peinture que souvent j'ai pas le temps de finir et que je me dis que je finirai une fois que je serai revenu, que je serai revenu.
Du coup, dans ton sac, on va toujours trouver un nécessaire à peinture, à aquarelle.
C'est vrai que ouais, dans mon sac, il y a souvent l'aquarelle, un pinceau et je me suis rendu compte finalement à travers mes voyages que l'aquarelle et un carnet, ça permet tellement de rencontres que ça devient un indispensable pour moi.
C'est une manière pour toi de forcer les rencontres avec les locaux ou même d'autres voyageurs, hein, du coup?
Oui, enfin, je me rappelle en Inde, par exemple, j'ai dessiné dans le train et tout le monde venait me voir, et même surtout les enfants en fait. Les enfants commencent à venir voir le dessin, qu'il soit mauvais ou bon, c'est pas très grave en fait, ils sont juste attirés par la couleur. Et de suite, tu vois leur sourire tu vois leur sourire et tu vois leurs yeux émerveillés. Et forcément, ensuite viennent les parents. Et ensuite, on a une discussion autour d'une table. Et enfin, c'est très intéressant ce que ça crée finalement la peinture.
Outre la peinture, de quelle manière tu vas être amené à documenter tes voyages? Tu parlais de photos, est-ce que tu prends des notes aussi sur des petits carnets? Comment tu racontes tes voyages?
Alors je prends pour la Bolivie, je prends des notes sur un carnet. J'ai aussi un carnet qui est un carnet qui est individuel, qui est seulement pour récolter toutes les plantes que je retrouve là-bas, qui me fait une sorte d'herbier, qui me rappelle un peu tous les moments où je les ai cueillis, qui me rappelle, voilà, qui me donne une sorte de souvenir, une empreinte de ce que j'ai vu là-bas. Sinon, j'aime bien documenter par la photographie et la peinture. La peinture, en fait, j'ai développé une technique qui est une peinture à la flamme, grâce à mon voyage en Bolivie. Et donc c'est en fait ce voyage continue encore aujourd'hui à travers cette technique artistique.
Ça consiste en quoi?
Ça consiste en fait, en revenant de Bolivie, je me suis dit, j'avais l'habitude de dessiner au pastel, et je me suis dit, voilà, pour parler de leur culture, il faut absolument que je trouve une nouvelle méthode de dessin qui parlent pas de ma culture à moi, mais qui parlent de leur culture à eux. Je voulais que quand j'évoque ma technique de dessin, que je sois obligé de parler de leur culture. Et finalement, j'ai trouvé le jour là où ils ont appelé la Pachamama, ils ont fait un énorme feu. Et ce feu-là, en fait, sert à appeler la Pachamama. C'est un peu le début de leur culture, finalement, ce feu-là. Parce qu'il permet de s'entretenir avec un monde qui est l'au-delà. Et à partir de ça, je me suis dit, mais en fait, je vais prendre le feu comme pinceau. Et j'ai commencé à expérimenter et j'en suis arrivé à créer des peintures qui parlent de tout ce qui est spirituel, tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qui est la Pachama, en fait, à travers ces illustrations.
Bon, forcément, vivre avec cette communauté pendant plusieurs semaines, j'imagine que tu utilises des liens avec ces gens-là. Est-ce que tu as pu garder contact avec eux et de manière générale, comment tu considères la rencontre en voyage ? Est-ce que tu en considères ça comme une relation un petit peu éphémère et intense ou est-ce que tu as tendance à garder contact une fois de retour au pays ?
J'aime bien garder contact quand je reviens chez moi, notamment avec Facebook, tout ce qui est Gmail. Enfin, du coup, c'est quelque chose que je redécouvre actuellement, c'est les cartes postales en fait. Il n'y a rien qui fait plus plaisir, pour moi en tout cas, de recevoir une carte postale d'un ami qui aurait très bien pu envoyer un SMS, un message sur Facebook, un message sur Gmail. Mais non, finalement, il va envoyer une carte postale et là, ça apporte tellement plus de valeur à finalement, la relation humaine. Et concernant Bolivie, je n'ai pas forcément gardé beaucoup de contacts parce que c'est très dur et en fait, ils n'ont pas forcément accès à Internet. C'est plus tout ce qui est courrier. Donc des fois, je leur ai écrit, mais bon, je n'ai pas de réponse. Et ce qui, on va dire, le problème, c'est la langue, c'est que c'est l'aymara, pas forcément l'espagnol. Il y a quelques sites qui recensent la langue aymara, où je peux très bien utiliser un traducteur automatique. Mais la plupart du temps, en fait, je fais appel à quelqu'un que j'ai vu, qui m'a accompagné en interprète, qui parlait anglais, espagnol, aymara. Et je lui demande de temps en temps, voilà, tu peux me traduire cette phrase, s'il te plaît. Mais je ne peux pas lui demander tout le temps, en fait, donc... Voilà, les occasions de communiquer sont assez rares.
Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu es atteint de ce qu'on pourrait appeler le blues du voyageur, une espèce de spleen post-retour, et comment tu te soignes ?
En fait, quand je reviens de voyage, j'ai souvent ma peinture à finir. Donc c'est un peu ce que... je la laisse avec beaucoup de peine, parce que je me dis, mince, j'ai pas fini cette peinture, et il y a quelque chose... Chaque voyage est un peu comme un énorme monstre pour moi. C'est que je marche au challenge en fait, je fais jamais quelque chose où je suis à l'aise et je sais que je serai pas à l'aise dans le prochain voyage que je veux faire et donc je sais que ça va être dur et donc le fait de laisser cette peinture inachevée, de revenir plus tard, je sais qu'il y a un futur en fait et quand je reviens, je me dis ah ça y est, je reviens et finalement cette peinture a deux faces, la face avant partir et la face après et donc ça me fait une sorte de condensé de mon voyage.
Justement, pour se parler du futur, quels sont tes futurs projets ou tes futurs challenges ? Tu vas aller où ?
Alors, en écoutant le podcast, je veux bien aller essayer la Via Dinarica, comme Megan l'a fait. C'était quelque chose que je voulais absolument tester. Et c'était proche, peu cher en avion. Et finalement, c'est une partie que je ne connais pas de l'Europe. Donc, c'était parfait. Ensuite, j'ai un projet d'aller en Birmanie, travailler avec un photographe pour monter un projet. Et ensuite, je vais revenir en Bolivie parce que c'est mon grand projet. J'ai pas tout achevé. En fait, en Bolivie, j'ai fait la découverte de quelque chose qui m'a fasciné. Dans les marges du désert, des motifs qui se retrouvaient à l'infini, qui n'étaient pas du tout les mêmes. Et j'ai envie de faire un documentaire sur ça, sur toute la richesse qu'on peut trouver dans ce désert.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc, tu as un petit espace qui t'est réservé. Si tu veux partager une dernière anecdote, une recommandation ou un proverbe, c'est à toi.
J'ai envie de partager une citation de Mike Horn, qui est un aventurier d'extrême. Donc c'est vraiment un aventurier d'extrême. Donc c'est pas à ce point-là, mais j'ai un passage dans son livre qui m'a vraiment touché et qui montre finalement que la vie n'est qu'un jeu et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir tant de stress que ça dans toutes les actions qu'on fait. Qu'il faut juste y aller et de toute façon, il n'y a rien à perdre en fait. Donc il commence comme ça. La mort prématurée de mon père m'a démontré que la vie est précieuse. Et j'en ai tiré une philosophie à ma mesure. Pas question de dilapider ce trésor dans une routine quelconque, dans des habitudes qui sont autant de petites morts. Combien de jours vit-on ? 30 000. Combien d'heures ? 720 000. Ce qui fait 43 millions de minutes. Il ne faut pas en gâcher une. Mon père n'a pas eu la chance de vivre mieux. Il a eu une demi-vie. Moi, j'espère que j'en aurai une pleine et entière. Et déjà, j'estime qu'une seule vie, ce n'est pas assez. Je veux aller sur des chemins inconnus, voir des paysages vierges, parler avec des hommes d'ailleurs. Je veux parcourir le monde, assister à des aubes dans les Andes et des crépuscules en Mongolie. Je veux voir au-delà du mur.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. Une partie de moi, mon bonheur.